Le journal Loïc Barrière. Un rassemblement à Bagdad pour marquer le troisième anniversaire de la contestation. 35 morts et 80 blessés, c'est le dernier bilan d'une attaque contre une école mixte de Kaboul. Le collectif Handicap, déçu par les projets de budget en France pour les personnes en situation de handicap, entretien avec Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif. Enfin, octobre rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, un camion ira à la rencontre des franciliennes pour pratiquer des dépistages. À quel âge les femmes doivent-elles se faire dépister et à quelle fréquence ? Entretien avec le radiologue Patrick Toubiana. En Irak, des centaines de personnes ont manifesté à Bagdad pour commémorer le troisième anniversaire du soulèvement contre le pouvoir. Un anniversaire qui a lieu alors que le pays est dans une impasse politique, l'Irak est sans gouvernement. Mercredi, des tirs de roquettes ont visé la zone verte pendant les travaux du Parlement. En Afghanistan, le bilan de l'attaque contre une école à Kaboul s'élève désormais à au moins 35 morts et plus de 80 blessés. Un kamikaze a actionné hier sa ceinture d'explosifs dans ce centre d'enseignement supérieur. Ce centre est l'un des rares à accueillir des filles et des garçons dans des salles communes en Afghanistan. En Iran, les manifestations contre le pouvoir se sont poursuivies. La colère a éclaté après le décès de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs. Des centaines de personnes ont été arrêtées ces derniers jours, dont 9 étrangers, notamment un ressortissant français. Des manifestations de solidarité avec les Iraniennes se tiennent ce week-end dans plus de 150 villes à travers le monde. En France, qu'en est-il du budget pour les personnes en situation de handicap ? Pour le collectif Handicap, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas à la hauteur. Entretien avec Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif Handicap.
De notre point de vue, ces textes, hein, PLF et PLFSS, manquent cruellement d'ambition pour faciliter la vie et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, dans la mesure où on n'y retrouve absolument pas, nous, les grands chantiers qu'on a portés, notamment au moment de l'élection présidentielle, par exemple, concernant la cinquième branche autonomie. Le gouvernement, finalement, s'obstine à garder un axe orienté très personnes âgées, ce qui est légitime, hein, mais il manque l'axe pour le soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap, et on ne retrouve aucun axe dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, alors que c'est un enjeu majeur pour les personnes en situation de handicap. Après, on pourrait aussi évoquer la question de l'accessibilité. Le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, avait notamment évoqué la question des fonds territoriaux d'accessibilité qui seraient mis en place avant la fin de l'année. Or, on n'y retrouve aucune trace budgétaire dans les textes, donc ça veut dire que cette question-là sera renvoyée à la prochaine conférence nationale du handicap en février 2023. Mais on perd finalement un an depuis la mise en place du nouveau gouvernement. On perd un an de mise en œuvre d'une politique cohérente du handicap. C'est en cela qu'on est insatisfait.
Et vous dites que la cinquième branche autonomie ne s'accompagne toujours pas d'une véritable politique de soutien à l'autonomie. Pouvez-vous nous faire part des éléments de cette cinquième branche autonomie ?
Cette cinquième branche autonomie a été créée en août 2021 et c'est extrêmement important, c'est une avancée majeure, cette cinquième branche autonomie. Et elle s'adresse effectivement aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap pour leur permettre, comme son nom l'indique même mal, mais d'avoir une vie au quotidien, à domicile, avec des aides techniques pour pouvoir avoir des activités de la vie sociale. Et donc il y a tout cet aspect de la compensation, et nous on demande dans le cadre de cette cinquième branche autonomie, par exemple, la suppression de la barrière d'âge de 60 ans. Alors c'est un peu technique, mais en fait, pour le dire très rapidement, si vous avez un accident à 59 ans, vous allez être pris en charge par les dispositifs liés au handicap. Par contre, si vous avez le même accident à 62 ans, vous ne serez pas pris en charge par les dispositifs liés au handicap. Et donc c'est pour ça qu'on demande cette suppression d'âge de 60 ans pour que tout le monde, quel que soit l'âge de la survenue du handicap ou quelles que soient les conséquences liées à un handicap, puisse être pris et puisse bénéficier des dispositifs quel que soit l'âge. Et quand on pense par exemple aux personnes âgées, qui vont avoir des altérations cognitives ou motrices, elles ne vont pas pouvoir bénéficier d'aide technique ou d'accompagnement d'aide humaine suffisant. Voilà, nous, c'est un exemple, mais c'est un aspect de la cinquième branche que l'on critique. On veut cette suppression de la barrière d'âge et parallèlement, on veut des moyens de compensation technique ou d'aide humaine suffisamment financés pour que les personnes, par exemple, puissent rester à domicile. Voilà. Aujourd'hui, alors dans le secteur des personnes âgées, c'est aussi très compliqué, mais pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, quand elles doivent faire appel à une aide humaine, eh ben, c'est compliqué parce que le personnel n'est pas forcément formé, ou alors il manque du personnel, et que tout ça, ça demande des moyens, et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la cinquième branche autonomie.
Les personnes en situation de handicap qui sont particulièrement touchées par l'inflation galopante aujourd'hui, notamment en France ?
On sait que dans la population dite handicapée, hein, il y a une forte proportion de personnes qui ont des ressources en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, elles sont directement impactées par le coût de l'énergie, mais aussi des coûts des produits de la vie courante. Alors même si le gouvernement effectivement a augmenté l'AH au mois de juillet,
l'allocation adulte handicapé.
Exactement. On sait de toute façon que les niveaux de revenus ne permettent pas d'avoir une vie digne pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, sans oublier d'ailleurs celles aussi qui perçoivent des pensions d'invalidité, lesquelles peuvent être bien inférieures à une AH à taux plein.
Et demandez-vous la mise en œuvre immédiatement de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, dont la mise en œuvre est prévue en octobre 2023.
Effectivement, sa mise en œuvre est prévue en 2023. Nous, on demande une mise en œuvre le plus rapidement possible. On sait qu'il y a des difficultés techniques à résoudre. Néanmoins, on demande à être associé déjà aux textes d'application qui sont en préparation pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de perdant et puis qu'on puisse assurer une transition qui soit favorable à l'ensemble des personnes. Et à la suite de ça, effectivement, on demande une mise en œuvre le plus rapidement possible. Puis même si c'était en octobre 2023, ce qui sera difficile à obtenir très certainement, mais à la limite, on pourrait aussi demander une rétroactivité sur les droits. Voilà ce que le collectif demande.
Le collectif qui entend faire entendre sa voix lors des débats parlementaires.
Oui, le collectif va s'investir de plus en plus dans la préparation des textes législatifs pour, à chaque fois qu'il y a un texte, vérifier que les droits et les intérêts des personnes en situation de handicap sont bien pris en compte. Donc on alerte à chaque fois les rapporteurs des lois, les ministères, même si ça ne concerne pas directement la politique publique du handicap. Néanmoins, toutes les politiques publiques doivent s'intéresser aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap. Et donc le collectif, autant que possible, s'attache à le faire et il le fera évidemment de plus en plus.
Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif Handicap, il répondait à François-Xavier de Calonne. Plus de 500 000 réfugiés syriens installés en Turquie sont retournés dans leur pays, une annonce du président Erdogan. En Turquie, pays confronté à une grave crise économique, la question de l'accueil des réfugiés fait partie des sujets de l'élection présidentielle, un scrutin prévu dans 8 mois. Enfin, à l'occasion d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, un camion ira à la rencontre des Franciliennes. Cette unité mobile de dépistage stationnera du 4 au 7 octobre place de la République à Paris avant d'aller dans plusieurs villes d'Île-de-France. Entretien avec le radiologue Patrick Toubiana.
Le dépistage systématique organisé en France, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage organisé, qui est organisé par l'État et qui concerne les patientes qui vont de 50 ans jusqu'à 74 ans. Et il y a également le dépistage individuel qui concerne les patientes plus jeunes et plus âgées que ces deux âges que j'ai donnés. Donc en fait, ça concerne pratiquement toutes les femmes à partir de 25 ans. Donc le dépistage, il peut se faire de manière, il se fait de façon clinique, c'est-à-dire par l'examen clinique où on recherche une anomalie dans le sein, mais également par la mammographie. Et c'est là que le dépistage organisé intervient, parce que la mammographie, c'est l'examen clé pour le dépistage entre 50 et 74 ans.
Est-ce qu'il y a aussi des situations où il est urgent de se faire dépister pour certaines patientes qui auraient constaté certaines anomalies ?
Bien sûr. Dès qu'une une anomalie intervient, une anomalie dans l'aspect du sein, par exemple une rétraction ou une boule dans le sein ou encore une rougeur ou un écoulement par le mamelon, c'est quelque chose de pas normal. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un cancer, mais en tout cas, il faut absolument consulter un médecin qui va examiner, qui va confirmer la nécessité ou pas de faire un examen complémentaire. En général, ce sera une mammographie. Si c'est une personne jeune, entre 25 et 40 ans, par exemple, on fera d'abord une échographie et puis, si besoin, on complétera d'examens complémentaires.
Pour le dépistage classique, quelle est la fréquence justement de cet examen clinique et de la mammographie ?
Alors, l'idéal, c'est que les femmes à partir de l'âge de 25 ans doivent s'auto-examiner une fois par mois, et en regardant l'aspect des seins dans un miroir et également en se palpant, en s'auto-palpant, en recherchant la moindre petite boule qui peut apparaître. Donc ça, c'est tous les mois. Normalement, un examen clinique fait par un professionnel de santé, c'est-à-dire un médecin, un gynécologue ou un médecin traitant, ou encore une sage-femme ou une infirmière qui a l'habitude, eh bien ça c'est à peu près une à deux fois par an. Ensuite, quand la mammographie est réalisée, en général on commence à réaliser une mammographie, la première mammographie c'est à l'âge de 40 ans, dans le cadre du dépistage individuel, mais dans le cadre du dépistage organisé c'est à 50 ans, et là la cadence de ces examens, c'est une fois tous les deux ans pour la population générale.
Comment se passe une mammographie ? On imagine que pour certaines femmes, c'est peut-être un moment gênant la première fois.
Ça peut paraître inconfortable, mais c'est vrai que la mammographie, on a besoin pour pouvoir la réaliser, pour réaliser la radiographie du sein, on a besoin de comprimer légèrement le sein. Donc on place le sein entre deux plaques et on actionne une petite manette qui fait comprimer le sein légèrement. C'est très souvent indolore, c'est parfois inconfortable, mais c'est rarement douloureux. Donc la première fois c'est un peu surprenant, mais nos patientes nous disent très souvent les machines évoluent bien et on a de moins en moins mal. Chaque jour on a des patients qui sont étonnés du fait qu'elles n'ont plus mal. Donc, grâce à l'amélioration des techniques.
En tant que radiologue, vous pouvez livrer immédiatement un diagnostic ou bien parfois vous avez besoin de temps pour rechercher plus en amont ?
Alors, en tant que radiologue, évidemment qu'il y a des images qui sont caractéristiques d'une pathologie cancéreuse. Alors, on ne va pas le livrer immédiatement parce que pour être sûr et certain, on a besoin de compléter l'examen par une biopsie. Quand il y a une image anormale, on fera une biopsie qui va permettre d'analyser les cellules du tissu qu'on aura prélevé et qui permettra de confirmer l'existence ou pas d'un cancer.
Il est important que ce dépistage ait lieu régulièrement parce qu'on peut sauver plus de vies quand on traite un cancer du sein assez tôt.
Évidemment, ça c'est l'élément le plus important, c'est que la mammographie, le dépistage du cancer du sein par la mammographie permet de sauver des vies. Et surtout, le plus important, c'est que si on détecte très tôt le cancer, on a à peu près 95% de chances de guérison totale. Donc, c'est primordial de détecter cette maladie tôt. Après, lorsque on détecte le cancer trop tard, quand il y a des métastases, la guérison à 95% descend à environ 30%. Donc vous voyez une grosse différence. Il faut absolument tabler sur le dépistage.
Parmi les questions que vous posez aux patientes, il y a aussi le fait d'avoir une mère ou une grand-mère qui aurait eu un cancer du sein.
Oui, les facteurs de risque familiaux sont importants. Ce n'est pas toujours le cas parce que, 80% des cancers du sein surviennent sans aucun antécédent familial. Mais c'est vrai que c'est important, on va redoubler d'attention pour analyser les mammographies. Et puis surtout, ces patientes, on va lui, qui sont particulières, celles qui sont à un risque élevé ou très élevé, celles par exemple qui ont une mutation génétique sur un gène qui s'appelle le BRCA1 ou BRCA2, là, ces patientes-là, elles vont bénéficier d'une surveillance différente, beaucoup plus intense, avec une mammographie tous les ans, une IRM, et on va commencer beaucoup plus tôt la surveillance chez ces patientes qui sont peu nombreuses, mais voilà, il y a une surveillance particulière pour elles, alors que pour la population générale, c'est une surveillance tous les deux ans. Alors, c'est pas parce qu'on a une maman ou une sœur qui a eu un cancer du sein que obligatoirement on a une mutation génétique et obligatoirement on a un gros risque de cancer du sein. Mais bon, on va surveiller d'un peu plus près ces patientes et ça permettra éventuellement de détecter tôt une anomalie.
Est-ce qu'il y a des gestes à adopter pour prévenir ce type de cancer ?
Le cancer du sein, en général, c'est la mammographie en premier lieu, mais il y a bien sûr, comme pour tous les autres cancers, toutes les habitudes de vie qui sont négatives, qu'il faudra éviter parce que ça accentue le risque de cancer. Par exemple, fumer, par exemple, boire plus de 2 verres d'alcool par jour, avoir une vie sédentaire, ne pas avoir d'activité physique, avoir une alimentation trop grasse, etc. Ces éléments-là sont vrais pour tous les types de cancers et en particulier pour le cancer du sein.
Le radiologue Patrick Toubiana, le camion d'Octobre Rose organise ses mammographies via Doctolib. Le camion sera du 4 au 7 octobre à Paris, place de la République, puis dans plusieurs villes d'Île-de-France, notamment le 25 octobre à Saint-Ouen et le 27 octobre à Saint-Denis. Des ateliers d'autosurveillance et d'information seront également organisés. Cette édition est terminée. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h sera l'écrivain Jamil Rahmani pour son livre « Les contes berbères de mon grand-père » chez Orient Éditions. Rediffusion de cette émission demain dimanche à 19h. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.